Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Codinet, une solution qui pourrait se révéler efficace contre l'évasion fiscale en RDC. En effet, notre pays perd 15 milliards de dollars par an dans l'évasion fiscale, mais avec le système électronique Codinet, les initiateurs pensent que l'État congolais pourrait disposer d'un budget conséquent. Province du Kwilu, une maladie inconnue a déjà tué plus de 280 enfants en 3 mois dans la zone de santé de Mukedi à Gungu. Toutefois, le chef de la division provinciale de la santé se veut rassurant après avoir obtenu l'appui du gouvernement provincial et des partenaires. Et puis, un nouvel équipement médical pour l'hôpital militaire de garnison de Beni, une initiative de la maison militaire du chef de l'État pour renforcer la prise en charge médicale des militaires, ceux engagés dans la traque contre les groupes armés à Beni. Pour en parler, nous recevons le commandant de cette structure de santé, le capitaine docteur Derrick Kankonde. Madame, messieurs, bonjour. Comment lutter contre l'évasion fiscale qui fait perdre à l'État congolais la bagatelle somme de 15 milliards de dollars chaque année? Les initiateurs du projet Codinet pensent avoir trouvé la solution. Il faut selon eux que les taxes et autres impôts dus à l'État soient payés par le système électronique Codinet. Cette conclusion a été partagée hier à Beni à l'occasion du lancement officiel de la gouvernance électronique. Les fervents défenseurs de ce projet pensent que grâce à ce mode de paiement qui décourage le paiement manuel, l'État congolais pourrait disposer d'un budget conséquent. Daouda Faradja est l'inventeur de Codinet. Il explique au micro de Marc Marofimbo.
Les derniers rapports de la justice fiscale, les rapports nous parlent de 427 milliards de dollars par an qui disparaît dans l'évasion fiscale à travers le monde. Et maintenant, au pays, notre pays, la RDC, perd 15 milliards de dollars par an qui se volatilisent dans l'évasion fiscale. Maintenant, si on essaie de réfléchir ensemble, un pays qui a un budget de moins de 5 milliards de dollars, mais est en train de perdre plus de 15 milliards de dollars par an dans l'évasion fiscale. Donc vous comprenez que si une fois on arrivait rien qu'à juguler l'évasion fiscale, c'est qu'on peut arriver même à un budget de 20 milliards de dollars. Et c'est ce qui nous a poussé à dire non, nous devons forcer pour trouver une solution et nous lasser sur ces combats, malgré que ça soit très vite.
Santé dans la province du Kwilu, décès à répétition des enfants de moins de 5 ans causés par une maladie inconnue dans la zone de santé de Mukedi, territoire de Gungu. À ce jour, le cumul des cas depuis fin août dernier est de 4881, dont 286 décès enregistrés. Écoutez plutôt le chef de la division provinciale de la santé au Kwilu, docteur Jean-Pierre Bassaké, dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Les cas sont encore là. Les enfants ont la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements. Quelques-uns aboutissent à un tableau d'anémie. Nous sommes actuellement à 4881 cas, 286 décès en cumul. On a amené à un appui médicamenteux et matériel et technique. Certes, les produits qu'on utilisait n'avaient pas les bons principes actifs. Notre satisfaction, c'est que il n'y a plus assez de décès. Mais nous avons quand même pour nous à amener l'appui gouvernemental sous recommandation, bien sûr, de l'Assemblée provinciale. 5 millions sortis de la caisse provinciale. Des médicaments à la Kamedasu, notre CDR de près de 4 000 dollars. Les partenaires aussi ont rendu disponibles les anti-palidéens, donc ACT ainsi, de près de 28 à 29 000 dollars. Depuis le week-end à ce jour, c'est près de 33 à 34 000 dollars de médicaments et intrants. Nous avons un biologiste qui prélève les échantillons. On va envoyer au niveau national, certes à l'INRB.
Province de Lomami, les infirmiers qui travaillent à l'hôpital général de référence de Cabinda dénoncent le non-isolement des malades de COVID-19. Dans une déclaration faite le week-end dernier, ces infirmiers ont donné 48 heures aux autorités provinciales pour délocaliser les malades de COVID-19. Ils menacent de sécher le lieu de service si rien n'est fait. L'un d'eux, Pierre Capoué, s'est confié au micro de nos confrères de la radio Veritas de Cabinda.
Après avoir perdu beaucoup de cas dus au Covid. Nous voyons maintenant que même les personnels de l'hôpital sont maintenant atteints. Et aujourd'hui, nous assistons à un décès d'un agent de l'hôpital. Ce qui nous a pas chanté. C'est pourquoi on s'est adressé au gouverneur pour trouver solution dans 48 heures. Si dans les 48 heures, on ne trouve pas solution, on va abandonner les malades. Nous demandons aux autorités, deuxième point, la désinfection immédiate de tous les bâtiments de l'hôpital. Troisième point, que la gestion de la pandémie doit être comme partout ailleurs. Vous savez que les cas de Covid, l'hôpital héberge les gens avec comorbidité très fragile au Covid. Alors, on ne peut pas héberger les malades avec autre pathologie, en même temps gérer les cas de Covid. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité provinciale d'éloigner les centres de Covid loin de l'hôpital et chercher une équipe qui doit s'occuper des cas de Covid. Et non les mêmes agents de l'hôpital qui ne sont même pas formés, qui vont commencer à travailler et sur les autres malades et sur les cas de Covid. Vous voyez que l'hôpital ne peut pas être un centre de propagation de la maladie. Le gouverneur de la province, est-ce que c'est lui qui avait publié les premiers cas? Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui pouvait nous montrer où est-ce qu'on pouvait orienter les cas de Covid. Nous voyons qu'il y a une accalmie. Maintenant, on ne peut pas laisser les gens commencer à mourir.
En réponse, le ministre provincial de la Santé de l'Omami affirme que des dispositions ont été prises avec les responsables de l'hôpital pour l'isolement dans un bref délai des malades de Covid-19, cela en attendant la fin des travaux de construction du bâtiment destiné aux malades Covid. Du côté du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, des familles des déplacés internes bénéficient des soins médicaux gratuits depuis quelques semaines dans le centre de santé de Luofu, zone de santé de Kaina. D'après la société civile locale, cette assistance leur est offerte par le Comité international de la Croix-Rouge. Cette assistance crée un engouement des malades qui va au-delà de la capacité d'accueil du centre de santé. C'est un reportage de Grâce Hamzati.
La société civile de Luofu affirme que le CICR a renforcé les stocks du centre de santé en médicaments et facilite la prise en charge gratuite de tous les malades déplacés internes. Cette situation est donc à la base d'un engouement des malades au niveau de cette formation médicale, ajoute Hilaire Kanakwa, président de la société civile locale. L'infirmière titulaire du centre de santé de Luofu confirme les faits. José Masika affirme que le centre de santé est en quelque sorte débordé, vu sa capacité d'accueil réduite par rapport à la demande. Elle évoque notamment le fait que deux malades sont reçus dans un même lit. Toutefois, elle salue cette intervention du CICR et invite d'autres partenaires de santé à appuyer l'initiative. Contacté, le communicateur du CICR dans le Grand Nord Kivu, Robert Mouimouka, affirme que le problème lié à la saturation de l'hôpital est déjà remonté au niveau du département santé de son organisation et des solutions envisagées seront communiquées. Boutembo, Grâce Hamzati, Radio Kapi.
Santé toujours, plus de 4000 personnes vivent avec la drépanocytose en RDC. C'est ce qu'indique le docteur Placide Manzombi, l'un des spécialistes de cette maladie. Il a dit hier à Kinshasa lors de son intervention à un atelier organisé par le Réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC RENADOC. Reportage de Paul Matendo Mayamba.
Cet atelier a eu pour thème la modernisation de l'état civil et la protection des familles contre la drépanocytose. Pour Franck Tchitenge, coordonnateur du RENADOC, l'importance de cette rencontre est de sensibiliser toutes les couches sociales sur les dangers de cette maladie.
On a compris que la maladie de la drépanocytose est une maladie de l'ignorance. Les gens se marient sans se connaître, sans savoir s'ils sont compatibles ou pas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez vu que nous avons mis l'accent non seulement sur la modernisation de l'état civil, mais aussi sur la drépa.
Placide Manzombi, médecin spécialiste de la drépanocytose, appelle l'Assemblée nationale à élaborer une loi pour sa bonne prise en charge.
Nous avons plus ou moins 4 à 5 millions de drépanocytaires dans ce pays. Je plaide pour une loi de protection des drépanocytaires. On voit ça d'une façon globale. La protection à la naissance, la protection dans la communauté. Il y a beaucoup d'enfants drépanocytaires qui sont des chèques et qui sont jetés. La protection scolaire. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui sont intelligents, mais ils peuvent tomber malades pendant que les autres font des interrogations, des examens, et ils reviennent, on ne sait pas, refaire ces examens.
Plusieurs autres organisations de la société civile ont participé à cette réflexion, comme le panel des experts de la société civile.
Les caucus des députés provinciaux élus de Rutshuru au Nord qui vous saluent et encouragent les FARDC dans les efforts de mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23, ce après la récente attaque à Tchanzu et Runyoni dans le groupement de Djomba. Dans une déclaration hier à Goma, les députés provinciaux de Rutshuru demandent à la population encore réfugiée de rentrer chez elle tout en restant vigilante et de collaborer étroitement avec les services de sécurité. On écoute à ce sujet Hope Kibuya Sabini, rapporteur de ce groupe des députés.
consécutivement aux dernières attaques dirigées contre notre armée par de présumés combattants du M23, opposition d'Ndiza, Tchanzu et Runyoni, en groupement de Djomba, situation ayant causé des déplacements internes et des réfugiés vers l'Ouganda avec des implications sociales, économiques et humanitaires, nous députés provinciaux et élus du territoire de Rutshuru, félicitons, encourageons et soutenons notre armée, la police et les services spécialisés pour avoir mis l'ennemi en déroute. Condamnons la recrudescence de l'insécurité et le bruit des bottes par des assaillants et toute forme de rébellion, appelons la population de soutenir et de collaborer par toutes les voies possibles avec les forces armées, la police et les services de sécurité pour contenir les assaillants dans toutes leurs manœuvres de déstabilisation tout en se méfiant des tapages de l'ennemi. Appelons les forces armées, les services de sécurité et spécialisés d'user de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la province.
Signalons que cette attaque des rebelles du M23 du dimanche soir au lundi dans la matinée suscite plusieurs réactions des acteurs sociopolitiques sur place à Goma, tous condamnant la reprise des hostilités par ce mouvement rebelle. Par ailleurs, entre 2008 et 2021, près de 7500 personnes ont été tuées au cours des 2237 attaques dans près de 700 entités dans les territoires de Beni au Nord Kivu et Irumu en Ituri. C'est le résultat de l'enquête intitulée « Rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu, terrorisme, djihadisme ou génocide Nandé » réalisé par le député national Tembos Yotama et le député provincial Benze Yotama. Cette enquête de plus de 800 pages a été rendu public hier à Kinshasa devant la presse. Les deux élus de Butembo en appellent à la conscience nationale devant ce qu'ils qualifient de génocide. D'autres détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Une situation complexe et catastrophique dont les vrais auteurs et acteurs ne sont pas réellement identifiés, reconnaissent les deux députés.
Curieusement, les attaques sont perpétrées dans les zones surmilitarisées.
Et même le gouvernement, jusqu'à maintenant, il parle de présumés ADF. Ça veut dire, et même le gouvernement n'est pas à mesure de nous donner clairement l'identité des tueurs.
Les deux enquêteurs disent que 85% des membres d'une seule tribu sont ciblés.
Les Nandes, s'ils sont visés, nous estimons que c'est parce que les Nandes Olonda résister à la balkanisation de notre pays.
Que faire pour mettre fin à ces atrocités?
Dans des suggestions, nous avons eu à demander au gouvernement de revoir, d'adapter cette stratégie parce que les assassinats, les massacres ont sérieusement galopé à telle enseigne qu'on a tendance à croire que cette mesure n'est pas appropriée pour la sécurité de l'Est.
Et à la communauté internationale, il recommande.
Nous avons appelé à ce déclenchement des enquêtes internationales indépendantes pour identifier évidemment les vrais tueurs, pour que ce tueur soit déféré devant la justice et que la justice soit même d'essuyer les larmes de ses victimes.
Cette enquête a été réalisée en collaboration avec la Fondation Maître Mbenze Yotama et les centres de promotion de la démocratie, du droit et du développement.
Provinciaux Lomami, les ressortissants du territoire de Kanyama se félicitent d'une part du travail abattu par les jeunes Kuluna qui sont au service national à Kanyama Kasese, de l'autre de leur comportement car ils travaillent dans la discipline et ne sèment pas l'insécurité telle que redoutée par plusieurs personnes. Cependant, les ressortissants de ce territoire voudraient que le service national profite également aux jeunes de cette entité. Écoutez à ce sujet, Jess Numbikabea, président national de la mutuelle du territoire de Kanyama, joint par Jean Gandou.
Il y avait beaucoup de panique avec l'arrivée de plus de 2500 Kuluna, mais nous avons remarqué qu'il y a eu une maîtrise de ces Kuluna. Il n'y a pas beaucoup de cas d'insécurité décriés sur le terrain. Nous voyons également la relance de la production dans le service national. C'est en plus de 5000 tonnes cette année. C'est une réalisation record pour l'instant. Nous pensons également que le service national devrait vraiment relancer l'économie de ce territoire. Toutefois, nous constatons que le service national ne remplit pas sa mission sociale dans la mesure où la population de Kanyama ne bénéficie pas totalement de l'action du service national. Tous les petits cultivateurs ne sont pas encadrés. La production totalement vendue en dehors, même pas une seule cantine localement pour servir aussi la population de Kanyama. Aujourd'hui, on est en train de former les Kuluna, mais les enfants de Kanyama ne bénéficient pas de cette formation. On devrait aussi intégrer une politique pour la formation des jeunes de Kanyama. Donc nous pensons que le gouvernement, le chef de l'État particulièrement, devait s'y pencher et trouver des solutions idoines afin de créer un climat social paisible pour permettre à ce que le service national soit bénéfique aux uns et aux autres.
Et puis, nous poursuivons avec notre série de reportages sur le processus électoral. Nous nous penchons dans ce troisième numéro sur la problématique du mode de scrutin à la présidentielle et du seuil de représentativité pour les législatives. Faut-il retourner à deux tours des élections présidentielles comme en 2006 et supprimer le seuil de représentativité pour les élections législatives? Ces deux options majeures à lever par la classe politique seront au cœur du débat au Parlement. Le député Delice Essanga avait déjà déposé depuis juillet 2019 une proposition de révision de la Constitution ramenant la présidentielle à deux tours, alors que la proposition de loi électorale redéfinit clairement la question du seuil de représentativité. Explication, Michel Kifindangoy.
D'après Delice Essanga, auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution pour établir les deux tours de la présidentielle, le problème des élections en RDC est lié à la gouvernance électorale et non à la réduction des nombres de tours passés de 2 à 1 depuis 2011. L'AMUKA de Martin Fayoulou insiste sur la crédibilité et la transparence du processus. Jean-Baptiste Mouindo.
L'AMUKA a mis sur la table une proposition de loi électorale, raison d'être de tout le processus de marche, parce que le salaire de la fraude électorale, c'est l'instabilité chronique.
Pour Jacques Joly, co-auteur de la loi électorale du G13, une option politique devra être élevée sur la question du seuil.
La tendance pour les uns, c'était tout simplement la suppression du seuil. Et c'est là où il faudra se prononcer. Est-ce qu'on supprime le seuil pour permettre à tous de venir, où on met un seuil rationnel pour rationaliser le jeu politique?
Si le seuil de représentativité est retenu comme en 2018 dans la prochaine loi électorale, seuls les candidats des partis et regroupements politiques ayant atteint le nombre minimum de voix requis par la loi se verront attribuer des sièges au Parlement.
Actualité internationale.
Nous sommes à Oulad Bouarfa, un village marocain frontalier à l'Algérie. Ici, de nombreux habitants vivent des échanges entre les deux pays, mais les tensions entre les deux autorités ne cessent de grimper. En 1994, la frontière a été fermée et depuis le mois d'août dernier, l'Algérie a rompu tout lien diplomatique avec son voisin le Maroc, mettant les habitants du village en difficulté. En effet, l'Algérie accuse le Maroc d'avoir tué 3 civils algériens sur une autoroute traversant la zone contestée du Sahara occidental.
L'invité.
L'hôpital militaire de garnison de Beni dispose désormais des deux blocs opératoires avec un nouvel équipement médical. C'est une initiative de la maison militaire du chef de l'État. Qu'est-ce que cela va changer dans la prise en charge médicale des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés dans la région de Beni? Réponse avec notre invité, le commandant de cette structure de santé, le capitaine docteur Derek Kankonde, s'entretient avec Martial Papi Moukeba.
Docteur Derek Kankonde, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qu'on peut retenir des nouveaux bâtiments construits à l'hôpital militaire des garnisons de Beni?
Le président de la République, lors de son passage ici à Beni en 2019, il avait eu l'envie et le souci de visiter les blessés de guerre qui sont en train de mourir pour la population. C'est comme ça que lors de son passage, pendant la visite, je lui avais posé les problèmes par rapport à la réhabilitation et à la construction d'un nouveau bâtiment au niveau de l'hôpital militaire de garnison de Beni. Chose faite, chose promise, par l'entremise du chef maison militaire, aujourd'hui le bâtiment est construit pour répondre aux difficultés et surtout aux besoins de blessés de guerre des militaires et de leurs dépendants. On a construit un nouveau bâtiment qui comporte 2 salles d'opération, salle aseptique, salle septique et une salle d'attente. Il y a 2 bureaux de consultation, cabinet de médecins, il y a un bureau administratif et puis il y a aussi une pharmacie. Et on a réhabilité les anciens bâtiments qui étaient là et on nous a doté aussi de nouveaux appareils. La radiographie, l'ECG, l'échographie, les laboratoires, vraiment, pour le moment, nous sommes mieux équipés par le financement de la présidence de la République.
Qu'est-ce que cela change dans la prise en charge des blessés fardessés engagés dans les opérations contre les groupes armés?
Vous savez, ça change beaucoup. Quand un militaire va en guerre, il sait que même s'il est blessé, il peut être pris en charge facilement, il va se donner corps et âme. Cette histoire change beaucoup de choses dans la psychologie, dans la vie, même dans l'amélioration des conditions de prise en charge des militaires blessés, pas seulement les blessés, et aussi même de leurs dépendants. Et même les militaires qui ne sont pas blessés, nous prenons en charge tout le monde. En moyenne, nous recevons 286 malades par mois. Dans les temps, avec le matériel que nous avions et les locaux, nous étions en train de beaucoup transférer les malades, les blessés. On les transférait beaucoup, surtout les matériels d'ostéosynthèse que nous n'avions pas. Mais pour le moment, le corps de santé militaire de FARDC nous a doté de matériel d'ostéosynthèse qui nous permettait à ce que nous puissions transférer. C'est comme ça que beaucoup de cas que nous transférions à Goma, même à Kinshasa, nous allons commencer à les prendre en charge ici. Même les civils sont invités à venir consulter du côté militaire. Dans la qualité des soins, il n'y a pas une barrière. C'est pour l'avantage et l'intérêt et des militaires et des civils qui sont aux environs des militaires.
Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour améliorer la prise en charge des militaires et leurs dépendants dans la région de Béni?
D'abord, c'est l'entretien des matériels et des bâtiments qu'on nous a donnés. Nous devons bien entretenir cela. Et de deux, il nous reste le problème par rapport à la prise en charge des femmes gynéco-obstétriques. Nous allons encore continuer à plaidoyer à ce que nous soyons encore appuyés pour avoir les bâtiments qui pourra abriter les femmes, surtout qui accouchent, les parturiantes. Et nous voulons avoir un bloc pour la maternité. C'est ce qui nous reste. Mais dans tout ce qui est là, tout marche bien. Il ne reste que le bloc pour la maternité qui va nous permettre à ce que nous puissions prendre en charge nos épouses et leurs dépendants.
Docteur Derrick Kakonde, merci.
Le commandant de l'hôpital militaire de garnison de Béni était avec Martial Papi Moukeba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.